de Papéji sur la version qui envoie un grand aïoli à tous les auditeurs de Radio Galère sur le 884, évidemment.
Il nous faut d'abord faire aimer le travail.
Donc il faut vraiment se défoncer comme des dingues.
On est numéro un mondial et on veut le rester.
Salarié heureux, client heureux.
Je crois qu'il y a chez la NUPES des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler.
C'est important que le manager aide son collaborateur à développer son employabilité.
Non mais moi je suis actionnaire, donc je ne travaille pas, donc je ne travaille pas, donc je ne travaille pas.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Galère et vous écoutez Galère de Taf. À chaque émission, on vous propose de discuter d'un ouvrage qui développe une pensée critique sur le travail, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire si vous travaillez trop, ou que vous n'avez pas pu acquérir si vous ne travaillez pas assez.
Alors pour cette quatrième émission qu'on a intitulée « Pôle emploi is watching you », on a décidé de se pencher sur la question du contrôle des chômeurs et des chômeuses, et on s'est basé sur le livre « Chômeurs, vos papiers », qui est sorti là très récemment cet été 2023, aux éditions Raison d'agir. Il est coécrit par Claire Vivès, Luc Sigalo-Santos, Jean-Marie Pillon, Vincent Dubois et Adrien Clouet.
La sortie du livre concorde avec la création de France Travail, donc cette nouvelle réforme qui vise à unifier dans une seule et même institution la prise en charge des personnes privées d'emploi, donc c'est-à-dire les allocataires du RSA, du chômage ou de l'ASS. La mesure phare de cette réforme, c'est un RSA conditionné à 15 à 20 heures d'activité par semaine. Et l'ambition de cette réforme, c'est de soumettre l'ensemble des personnes privées d'emploi à un seul et même régime de contrôle et de sanctions.
Donc sur le site du gouvernement, on peut lire « Avec la réforme France Travail, qu'est-ce qui change ? Donner à tous les moyens d'accéder à la dignité par le travail. » Donc ça déjà, ça sous-entend que ne pas avoir d'emploi, ça nous prive de dignité. En mesure phare, il y a aussi un accompagnement plus intensif pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, notamment les allocataires du RSA, et un appui à la définition du projet professionnel des personnes en situation de handicap. Donc là, quand on parle d'accompagnement, on verra plus tard dans l'émission à quel point, en fait, ça peut cacher des mesures coercitives et punitives. Et puis, cet appui-là sur la définition du projet professionnel des personnes en situation de handicap, c'est vraiment une mise au travail généralisée qui doit s'appliquer aussi aux personnes handicapées. Personne ne se soustraira au travail.
Donc ouais, c'est vraiment l'idée dominante. C'est pas la situation économique qui explique le chômage et toutes ses variations, mais la responsabilité et le comportement des individus. On les culpabilise, on les remobilise, on les relook même. On les incite à retourner vers l'emploi en baissant les aides et leur durée. Et attention, s'ils ne sont pas jugés suffisamment actifs dans leur recherche, alors on les punit, on les sanctionne.
Alors le livre, il commence par quelques rappels historiques. D'abord, la notion de chômage, elle est liée à l'idée de salariat, c'est-à-dire d'un contrat entre un travailleur et un employeur. Dans un contexte d'autosuffisance complètement hors du monde capitaliste et industriel, le chômage n'existerait pas, en fait. Et c'est au début du XXe siècle qu'émerge la notion de chômage dans sa dimension sociologique. Donc c'est le moment où on considère qu'une partie des pauvres mériterait la charité à condition de prouver leur volonté d'occuper un emploi. Le contrôle des chômeurs et des chômeuses dans l'indemnisation, il est déjà en question dans le début des années 1900. À cette époque, l'ivrognerie ou le fait de grève sont des motifs d'exclusion. Il y a ensuite une éclipse du contrôle dans la période de plein emploi après-guerre, donc jusqu'en 1970 environ, pendant toute la reconstruction du pays. C'est vraiment entre la fin des années 70 et le début des années 2000 que le contrôle et la responsabilisation individuelle des privés d'emploi vont s'accentuer, à mesure en fait que le chômage s'ancre comme une réalité structurelle de masse. Donc pour illustrer ce tournant-là de la fin des années 90 et du début des années 2000, on a un petit extrait de Loïc Wacan, qui est sociologue, et c'est issu d'un documentaire qui s'appelle « Attention, danger, travail », qu'on vous recommande chaudement, qui est disponible en intégralité sur YouTube.
Je pense qu'on a vraiment on a des blocages mentaux très importants. L'incapacité, par exemple, de penser l'activité de vie en dehors de la forme salariale, de la forme marchande, il y a un retour à la sacralisation du travail, très très grand. On a peine à imaginer l'instauration d'un revenu inconditionnel du citoyen qui ne soit pas dépendante de l'accomplissement d'un travail. Pourquoi est-ce qu'on a peine à imaginer l'existence sociale qui ne passeraient pas par le travail. Et donc là, je crois, c'est vrai, il y a un travail d'imagination, il y a un travail de décloisonnement mental à faire et de refus des évidences dues quand on nous dit aujourd'hui, on est revenu, d'ailleurs aujourd'hui, c'est étonnant, enfin, quand on lit les journaux, on est revenu au discours du milieu des années 80, où on disait plus de croissance, la croissance est la solution de tous les maux de l'univers. Plus de croissance, alors on le disait avant quand on avait 5% de chômage, et on nous disait 1 million de chômage, c'est intolérable. Plus de croissance. Ensuite, on nous a dit, on était à 2 millions. On nous a dit 2 millions de chômage, mais il faut plus de croissance. Il faut abaisser le coût du travail. Et plus de croissance. On est passé à 3 millions de chômeurs. On est revenu à un discours productiviste de sacralisation du travail qui est nécessaire justement pour faire accepter le travail dégradé et dégradant. Comment voulez-vous que des jeunes qui ont des emplois placards et des stages bidons, ils acceptent de rentrer dedans si on ne leur dit pas que le travail, c'est formidable ? Il faut d'autant plus revaloriser symboliquement et moralement le travail qu'il paie d'autant moins économiquement. Et pour sortir du chômage de masse, eh bien, on a les CES, les emplois précaires, les contrats ici, les contrats là, et on doit encore être content. Et quand vous allez à NPE, on vous apprend quoi ? On vous apprend à vous vendre. Vous êtes maintenant un petit entrepreneur. Allez vendre vos capacités. Donc, c'est exactement le modèle néolibéral du marché. Vous êtes un petit entrepreneur, vous avez des capacités, vous les vendez sur le marché. Toute notion de solidarité, de responsabilité collective, de co-responsabilité individuelle et collective dans les situations sociales de cette jeunesse sont totalement passées à la trappe. Mais ça, c'est absolument formidable pour les entreprises. C'est absolument formidable parce que là, les politiques d'ajustement structurel se font immédiatement. Et par le biais de la NPE, c'est un peu la même mentalité, la même conception du travail qu'on encourage. Allez-vous vendre ? Allez vendre votre force de travail, s'il faut, alors au mois, à la semaine, ou en CDD, ou on y viendra peut-être, au jour le jour. Quand on regarde d'un peu plus près les statistiques de l'emploi, on observe que les catégories d'emplois qui ont augmenté le plus, ce sont les emplois partiels, les emplois précaires et les CDD. Donc on a fait passer un petit volant de chômeurs du statut de non-travailleur au statut de travailleur précaire. Si c'est ça la solution du chômage de masse, c'est en fait la voie américaine de la généralisation du salariat précaire et de la normalisation de la précarité, c'est la création d'une société d'insécurité sociale qui est marquée par des inégalités sociales gigantesques, qui est marquée par la normalisation de l'insécurité, qui est même présentée aujourd'hui aux États-Unis comme un principe positif d'organisation sociale. L'insécurité, ça n'est pas mal. L'insécurité, c'est bien, ça vous fait vous tenir sur vos pieds, ça vous fait être toujours vigilant, vous êtes toujours prêt à travailler, vous êtes motivé. Vous ne faites pas la performance adéquate, vous êtes immédiatement éliminé. Une autre personne sera là pour faire votre performance. Et c'est présenté non pas comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif, puisque vous tirerez le meilleur de vous-même. Et donc, la création d'une société d'insécurité sociale avancée, c'est ça. Et pour arriver à avoir cette insécurité sociale avancée, il faut s'engager dans une politique de paupérisation de l'État, puisqu'il faut un État faible, un État qui ne protège pas de la discipline du marché. La montée de l'appareil, des dispositifs policiers et pénaux, y participe de la normalisation du salariat précaire. On vous le dit à l'école, maintenant, l'horizon du travail normal, votre vie de travailleur futur, ça sera un emploi d'insécurité. Vous ne voulez pas, bon, vous avez l'alternative du business. Vous allez faire de l'économie incriminelle, de l'économie informelle de la rue. Mais alors là, ben, le coût, soyez prêt à accepter le coût supplémentaire. Votre probabilité d'être incarcéré, d'être arrêté, d'être poursuivi, d'être incarcéré augmente. D'un côté, ben, on vous force, si vous voulez, et puis si vous ne voulez pas, ben, vous tombez dans le système pénitentiaire, qui est en quelque sorte la voiture balai du marché du travail. Les clients principaux des prisons européennes, c'est les précaires, les toxicomanes ou les personnes liées au trafic de la drogue, et les étrangers. Et donc, on voit ces trois catégories. Ben, c'est quoi ? C'est les trois catégories, en quelque sorte, qui n'acceptent pas ou auxquels il faut faire accepter le travail désocialisé, le travail précaire. Eh bien aujourd'hui, on assiste de fait, en bas de la structure de classe, pas en haut, en bas de la structure sociale, on assiste à de nouveau une fusion, un couplage de la question sociale et de la question pénale.
Donc c'était Loïc Wakan dans Attention, danger, travail. Et cette intervention, elle date de 1999. Donc on peut constater à quel point elle est encore extrêmement pertinente et à quel point le mouvement dans lequel on est engagé aujourd'hui, il était déjà bien début des années 2000. Quoi. Ouais, la période qu'on connaît aujourd'hui, c'est une continuité de ces constats-là. Il le disait, on y viendra peut-être un jour, le travail au jour le jour. Et finalement, Uber, c'est exactement ça, quoi. Ouais.
Puis ce qu'il décrit sur cette société de paupérisation généralisée, c'est exactement ça, quoi. D'insécurité Enfin, c'est assez. On vous recommande vraiment le documentaire Attention danger travail parce que c'est vraiment sur toute cette thématique, sur aussi la philosophie du travail qui est assez criante de vérité, même si c'était dans les années 2000.
Donc voilà, ça c'est le gros tournant libéral qui était déjà entamé dans les années 80, qui s'accélère dans les années 2000.
Et du coup, ensuite, il y a une autre date un peu clé qui est 2008, quand Sarkozy était au pouvoir, la création de Pôle emploi. Donc la création de Pôle emploi, c'est la fusion des ACEDIC qui est chargée de verser l'indemnisation et de l'ANPE qui est chargée de l'inscription et de l'accompagnement. Cette création de la NPE, c'est pas une simple c'est pas une simple réorganisation, c'est la création d'un métier de référent unique, donc qui manie la carotte et le bâton. Ça permet d'augmenter encore plus la pression où le contrôle devient une composante à part entière des professionnels de l'accompagnement. En parallèle, on étend aussi les motifs de radiation.
Donc au départ, il y a eu des résistances de la part des travailleurs et des travailleuses à Pôle emploi. Le contrôle, c'était vraiment considéré comme le sale boulot. C'était incompatible avec une mission d'aide, mais ça va devenir petit à petit une activité spécialisée au sein de l'institution. Les auteurs expliquent comment les cadres supérieurs de Pôle emploi ont fait pour faire accepter cette notion de contrôle au sein de l'institution. En fait, ils ont développé un argumentaire qui fait du contrôle une dimension de l'accompagnement. Ça revient à donner un sens positif, en fait, au travail de contrôle. On ne va plus parler de contrôler les gens, on va parler de redynamisation ou de remobilisation ou de faire pédagogie avec les chômeurs. Mmh. Ce qui rappelle d'ailleurs, dans une émission précédente, on parlait de ce terme-là, pédagogie, et ce qui recouvrait en réalité, quoi. Et il y a aussi un brouillage en fait entre contrôle et accompagnement. Parfois l'un est au service de l'autre. Par exemple, le journal de bord pour la recherche d'emploi, qui est initialement pensé pour être un outil d'accompagnement, devient une source d'informations potentielles pour les équipes de contrôle.
Ouais, et à la base, le contrôle de la recherche d'emploi et la fraude, c'est deux choses qui sont différentes. Le contrôle, ça sert à vérifier que la recherche elle est bien active, donc ça relève de l'accompagnement. Alors que la lutte contre la fraude, c'est vérifier si les personnes ne perçoivent pas une allocation qui ne leur est pas due. Et donc ça relève de l'indemnisation. Mais en fait, il y a une confusion qui est entretenue dans le débat public entre l'absence de recherche d'emploi et le comportement frauduleux. Ce discours favorise le glissement de la figure du chômeur paresseux au chômeur tricheur. Et tout ça s'inscrit dans une tendance plus générale à la responsabilisation des assistés, perçue comme une menace morale pour l'ensemble du corps social, en préférant l'aide sociale au travail. La fraude sociale devient un angle central du débat public et participe à légitimer l'idée du nécessaire renforcement du contrôle, alors qu'en réalité, les fraudes sont plutôt rares et représentent une partie intime des allocations versées.
Infime, des allocations versées,
c'est ce qui a été décrit dans le livre.
Dans le livre, je pense que la fraude, ça représente moins de 0,25% des allocations versées. Quoi.
Donc c'est vraiment un discours politique. Quoi. C'est...
Oui, donc on peut se poser la question, pourquoi contrôler les chômeurs et les chômeuses? Un des arguments qui est constamment avancé, c'est pour favoriser le retour à l'emploi. Mais il n'y a que très peu, voire pas de chiffres disponibles qui permettraient d'évaluer l'impact du contrôle sur le retour à l'emploi. La politique de contrôle, elle n'est pas basée sur des preuves. Son efficacité, elle est bien plus de l'ordre de la croyance. Et si Pôle emploi ne publie pas ces chiffres, c'est parce qu'ils ont tendance à démentir l'efficacité de la politique de contrôle. Et ça empêche aussi de discuter, chiffres à l'appui, l'argument de la remobilisation. Mmh. On a quand même quelques chiffres. Donc si on les étudie, qu'est-ce qu'on constate ? En fait, quand on observe à toute petite échelle, on peut avoir l'impression que la sanction aide à retrouver un emploi. Mais quand on généralise, c'est très différent. En fait, la pression sur les chômeurs et les chômeuses, elle peut conduire des individus à retourner au travail, mais ça ne va pas créer d'emploi. Donc dans un contexte où il y a beaucoup plus de personnes privées d'emploi que d'emplois disponibles, et ben la personne, elle prend potentiellement la place de quelqu'un d'autre. Surtout, cette pression, elle va conduire les personnes à basculer vers d'autres statuts, donc maladie, inactivité, formation, etc. Le contrôle, il a très peu d'effet sur le retour à l'emploi au niveau macroéconomique, et il a surtout des retombées négatives sur les individus ciblés. En fait, il va les précariser et les pousser essentiellement à reprendre des emplois sous-payés. On observe des reprises d'emploi qui sont plus rapides, certes, mais moins stable et peu adapté aux qualifications des personnes, avec un gros turnover du coup. Le contrôle, il n'a aucun impact positif en fait sur l'emploi durable. Les taux de retour à l'emploi, ils sont sensiblement les mêmes pour les personnes contrôlées et celles non contrôlées.
Et on constate aussi que l'écrasante majorité des chômeurs et des chômeuses cherchent bien activement du travail. En fait,
c'est ce que les chiffres montrent.
Quand on augmente les contrôles, il n'y a pas plus de radiation. Et parmi ces radiations, très peu sont justifiées par le manque de recherche active de la personne. Ça peut s'expliquer par exemple par le fait de ne pas s'être actualisé à temps sur la plateforme.
Oui, c'est ça. La plupart des radiations, c'est t'as loupé un rendez-vous, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. On voit aussi que tous les chômeurs et les chômeuses ne sont pas traités de la même façon. Certains sont plus sanctionnés que d'autres ou moins. Les personnes moins sanctionnées, c'est par exemple les créateurs ou les créatrices d'entreprises, quoi. Du coup, on peut se demander pourquoi on contrôle. Ce qui est visé, en fait, dans cette intensification du contrôle, c'est la création d'un climat général de culpabilisation du chômeur. On ne va plus considérer que la personne est au chômage à cause d'une mauvaise conjoncture économique, mais on va lui faire comprendre que c'est à cause de son comportement inadapté, inefficace, voire fainéant. Elle seule est responsable de sa situation et elle doit s'en mordre les doigts. Et pour illustrer ça, on a un petit extrait qui ira parfaitement. C'est extrait de Des Pieds sur Terre, l'émission France Culture, et c'est sur le relooking de chômeurs. Donc on vous laisse écouter.
Et donc en 5 ans, vous avez eu des entretiens ?
Oui, mais le dernier remonte à 8 mois.
Vous étiez habillée comment ?
Pantalon noir, chaussures noires à talons.
Très bien.
Et puis une veste.
Ce qui nous paraît important, c'est que la veste noire et le pantalon noir, c'est strict, mais c'est très moderne.
Oui.
Et il faut vraiment porter du noir en disant « je suis dans la modernité ». Quand vous avez 25 ans, vous mettez un foulard, c'est complètement dans le coup. Mais quand on a un certain âge, vous mettez un foulard, et bien vous redevenez classique et vous manquez de modernité.
Et sentez-vous connecté aussi à l'énergie du soleil. Et on se remplit de lumière en faisant descendre cette lumière au niveau de la conscience, du troisième œil, de la thyroïde, et ça descend dans la terre. Dites, je me pardonne, c'est du passé, je vis ici et maintenant, j'ai eu le courage et l'intelligence de changer de cap et j'ai réussi à décrocher un CDD.
Donc voilà, ça peut prêter à rire, en même temps ça donne envie de pleurer aussi, c'est désespérant. Et en fait on a vraiment à la fois un discours qui est hyper... culpabilisant et responsabilisant en disant si vous êtes... Parce que là, le public, c'était essentiellement des femmes de plus de 50 ans, quelque chose comme ça, des chômeuses longue durée. Donc, si vous n'arrivez pas à retrouver un emploi après 55 ans, c'est pas parce que toutes les statistiques montrent que c'est extrêmement difficile, c'est parce que vous n'avez pas porté le bon foulard et que vous n'êtes pas assez moderne quand vous portez du noir. Enfin, c'est absurde et en plus, c'est couplé à une espèce de discours de développement personnel qui est... On en parlait, du développement personnel et de l'injonction à être résilient.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est culpabilité. En fait, c'est mettre la faute sur l'individu alors que c'est une problématique qui est globale, quoi.
Ouais, donc, c'est ça. Puis elle lui dit carrément « je me pardonne, j'ai eu le courage et l'intelligence de décrocher un CDD ». Enfin, au fond, c'est d'une violence terrible. Donc bref, le but de la sanction n'est pas de favoriser un retour effectif à l'emploi, mais bien de punir celles et ceux qui refusent de se plier docilement aux critères de ce que devrait être une recherche active selon Pôle emploi. Et ça, on le voit, il y a des gens qui cherchent du travail, par exemple, en allant se déplacer sans envoyer de lettres, etc. Et ils cherchent du travail. Mais comme ça ne répond pas aux critères de recherche de l'institution, ils peuvent être sanctionnés. En fait, c'est juste montrer patte blanche et être docile, quoi, vis-à-vis des exigences de l'institution. C'est ça que ça vise, la sanction.
Et puis d'ailleurs, souvent quand les personnes trouvent un emploi, c'est très rare qu'elles le trouvent grâce à Pôle emploi. Enfin, c'est des contacts, des mails. Enfin, donc finalement, Pôle emploi n'a même pas de vision sur ces recherches-là. Quoi.
Et cette intensification du contrôle, qui est largement relayée dans les discours politiques, elle contribue surtout à créer un climat de peur et de suspicion généralisée. Cette situation, elle a un double effet. Elle va pousser des chercheurs d'emploi à accepter n'importe quelle offre, même précaire, dégradée, éloignée des qualifications, etc. Et elle va aussi agir comme un repoussoir pour les personnes qui occupent déjà un poste. Si la personne au chômage, elle est tellement stigmatisée qu'on n'a pas envie d'y être associée. Sa situation matérielle, elle est tellement difficile qu'on n'a pas envie de la subir nous aussi. Donc quand on observe cette tendance d'un point de vue plus macro, plus global, on comprend que cette politique de retour rapide à l'emploi, du quoi qu'il en coûte, en fait, ça vise à une flexibilisation du marché du travail. Ouais. Donc l'offensive, elle concerne tous et toutes, travailleurs et travailleuses.
En fait, je pense que c'est un peu, moi, ce que j'ai vraiment retenu de ce livre, en tout cas, c'est le contrôle des chômeurs, il ne vise pas les chômeurs, il vise la société du travail. Enfin, pas que, il vise la société du travail dans son ensemble, vraiment.
Oui, c'est vraiment une mise au travail généralisée. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aborder là. Moi, ce qui m'a marqué, c'est un extrait de l'OCDE qui est retranscrit dans le livre. Donc l'OCDE, c'est quand même un organisme international de politique économique. Donc c'est vraiment cet extrait assumé noir sur blanc qui dit que lorsqu'on veut faire passer une réforme impopulaire, donc qui va appauvrir les travailleurs, il faut que le poids du changement politique soit supporté dans un premier temps par les chômeurs pour que l'opposition politique soit moindre. En effet, ces derniers sont moins susceptibles que les salariés en place de constituer une majorité politique capable de bloquer la réforme dans la mesure où ils sont moins nombreux et moins organisés. Donc c'est penser comme ça, quoi. C'est s'attaquer d'abord aux plus précaires qui peuvent moins se défendre pour ensuite imposer des réformes à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses.
Ensuite, dans le livre, il y a aussi cette partie-là de comment est-ce qu'on lutte. Et on rappelle, nous aussi, que la lutte est essentielle et qu'elle ne doit pas être laissée seulement aux chômeurs et aux chômeuses, et aussi aux travailleurs et travailleuses de Pôle emploi, parce qu'il y a un peu ces deux casquettes. Elle doit concerner vraiment l'ensemble des travailleurs et travailleuses de toute la population, parce que c'est toute la population, pardon, qui est visée par ce projet de mise au travail généralisé, donc ce que je disais tout à l'heure. Les politiques sociales sont traitées sous le prisme du développement économique. Pour le gouvernement, la solution à la pauvreté, c'est toujours la même, le travail à tout prix, et peu importe qu'il soit sous-payé et précaire. Le discours aussi majoritaire politique, là, en ce moment, il repose sur deux croyances, enfin, sur des croyances qui sont fausses. Les chômeurs ne travaillent pas, qu'ils manquent de volonté, qu'ils ont la vie facile. Or, on rappelle que la plupart des chômeurs et des chômeuses travaillent à temps partiel et aussi souvent dans des emplois pénibles, sous-payés, faute de mieux. Ou bien les personnes qui sont vraiment complètement en retrait du marché du travail le sont le plus souvent parce qu'ils ont été soit abîmés par le travail ou par la vie, ou alors c'est aussi dans des périodes courtes, où le chômage est nécessaire. Donc la fin des études, des entre-deux postes ou la pré-retraite. Mmh.
Et on a aussi un discours qui est omniprésent sur les métiers en tension, par exemple. On en parle avec la loi immigration, régulariser les personnes qui sont dans les métiers en tension, etc. Avec toute cette idée de pénurie de main-d'œuvre. Mais en fait, ça oublie qu'il y a au moins 10 fois plus de personnes privées d'emploi que d'emplois disponibles. Mmh. Et ces emplois non pourvus, ils sont souvent mal payés, pénibles, à temps partiel, en horaire décalé, éloignés des qualifications des personnes. Mmh. Mettre la pression sur les chômeurs et les chômeuses, en fait, c'est perpétuer la position dominante des employeurs dans le rapport de force qui les oppose aux salariés en matière de salaire et de conditions de travail. Mmh. Et le livre termine sur cette phrase qu'on a gardée telle quelle. Aujourd'hui comme hier, la cause des chômeurs et des chômeuses est bien celle des travailleurs et des travailleuses. Mmh. Donc, pour rappel, le livre, c'était Chômeurs, vos papiers, un ouvrage collectif qui est sorti cet été aux éditions Raison d'agir. Et on va vous laisser avec une interview de Maya et Riyad qui ont accepté de nous rencontrer, de discuter avec nous. On les remercie beaucoup pour leur confiance.
Ouais. Et on espère que ça fera écho leur témoignage à vraiment... Enfin, ça illustre, moi, je trouve, à plein d'endroits ce qu'on s'est dit dans la restitution de ce livre, quoi. C'est assez bien illustré. C'est deux parcours qui sont quand même plutôt différents. Mais
on retrouve beaucoup d'éléments qui sont soulevés par le livre, quoi. Ouais. Donc, on vous laisse. Et puis, nous, on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.
Ouais.
Moi, j'ai une licence au départ. J'ai une licence d'espagnol. En 2000, j'ai eu le concours de professeur des écoles et moi, j'avais un tuteur qui était clairement... c'était vraiment du harcèlement. Cette année-là, je suis tombée enceinte. J'ai tenu jusqu'à la fin de mon congé maternité et j'ai démissionné de l'éducation nationale à la fin de mon congé de maternité. Donc en fait, ça, c'est le début. C'est vraiment la grosse cassure parce que jusque-là, j'avais toujours été dans la facilité. Les études, j'aurais pu choisir ce que je voulais. Et là, d'un coup, il y avait un truc qui me disait que j'étais inadaptée, que j'étais pas... Enfin, qu'on me reconnaissait pas. Et puis, quand on démissionne de l'éducation nationale, on a même... Enfin, on a cotisé pour le chômage, mais on n'y a pas droit. Et puis, à l'époque, l'époque, on n'avait même pas le RSA, il fallait être sans ressources pendant 3 mois. Donc ça a été un gros basculement pour moi. Et après, j'ai fait un CAP de menuiserie en me disant je réessaye complètement dans autre chose. Sauf que, ben, en fait, la menuiserie, effectivement, c'est un métier d'homme dans le sens où c'est un métier qui est organisé pour qu'il y ait Bobonne à la maison qui s'occupe de récupérer les enfants et de faire la bouffe, quoi. Et moi, j'étais seule avec une gamine, je m'en sortais pas, donc j'ai fini par arrêter ça aussi.
Bah, en fait, moi, j'avais fait des études de comptabilité, j'avais un bac pro. Donc j'ai fait un BEP de 2 ans, un bac pro de 2 ans. Et puis j'ai bossé comme comptable pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et je me suis rendu compte que je détestais ce métier, que je voulais pas le faire. Et puis du coup, je me suis retrouvé à faire que des petits boulots. Et petits boulots, ça veut dire j'ai fait plus de périodes de chômage que de boulot.
Pendant tout ça, en parallèle, la seule activité que j'ai, mais qui n'est pas du tout rémunératrice, mais que j'ai de manière continue, c'est que j'écris. Je me suis dit, allez, je me mets à mon compte et je deviens animatrice d'atelier d'écriture. Et ça, je l'ai fait pendant 5 ans. C'est le seul boulot que j'ai tenu. Pendant 5 ans, j'ai été en auto-entreprise à créer moi-même mes ateliers d'écriture, mes stages, etc. Ça, c'est la partie travail que j'ai réussi à tenir, sauf que j'ai jamais gagné un clou avec ça. J'étais assez incapable de me faire payer. Et donc voilà, plein de fois comme ça, il y a redépart à zéro. Bon, bah ça non plus, ça marche pas, qu'est-ce qu'on va faire?
En fait, travailler, ça me dérange pas du tout, mais c'est juste que... J'ai toujours fait des petits boulots, et dans les petits boulots, t'es pas considéré, t'as aucune chance d'évolution, t'as un salaire de merde, et t'es payé au lance-pierre. Je vois pas l'intérêt de se lever tôt le matin et de se faire mal au dos pour 3 cacahuètes, quoi.
Moi, j'étais dans la facilité au niveau des études, j'avais plein de projets professionnels un peu brillants. Et puis, quand je suis passée dans la réalité du monde du travail, je ne comprenais pas ce qui clochait, mais je n'y arrivais pas. Et j'étais tout le temps soit moi complètement révoltée et angoissée par ce à quoi j'assistais, soit à monter les autres contre moi, et vraiment sans comprendre quels étaient les enjeux. Et j'ai passé pas mal d'années comme ça à essayer de me dire « Non, mais j'ai un problème, je ne suis pas normale, il faut que j'y arrive, il faut que je change de projet, il faut que je trouve... »
Mon dernier contrat de travail, c'était un boulot dans la restauration rapide de nettoyage, où finalement je faisais de la restauration, et où dans le contrat il était stipulé que je travaillais à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure, et pour n'importe quelle tâche, vu que mon boulot était évolutif, donc mon patron pouvait faire de moi ce qu'il voulait, quand il voulait et où il voulait.
Je pense que c'est vraiment à la démission de mon avant-dernier boulot que je me suis dit, non mais parce que ce boulot-là il était chouette, je m'étais investi dedans, il m'avait plu, et malgré ça j'avais pas tenu, et que je me suis vraiment dit, non mais en fait t'as un problème de santé qui fait que tu peux pas tenir ça, quoi. Et donc effectivement, j'ai un trouble anxieux généralisé qui est lié à un truc post-traumatique, pas que, mais entre autres quand même de ma première expérience à l'éducation nationale avec ce tuteur un peu harceleur là. Et donc là, effectivement, la conclusion actuelle, c'est que de toute manière, il faut que je trouve des combines pour réussir à vivre sans travailler, mais l'objectif n'est plus de tenir un travail, quoi.
Bah, moi, je pense aussi à mes parents, mon père. Je sais qu'il travaillait dans le bâtiment, il avait un boulot galère, bien dur et tout, mais il bossait tout seul. Ma mère était au foyer, quoi. Mais avec son salaire, il a élevé 4 enfants, il a vu un appart. Moi, je sais que maintenant, si je fais le même boulot... J'ai pas d'appart, quoi. Je vis dans un studio, j'ai pas le moyen d'élever une famille, je suis dans la merde, quoi, tout simplement.
Moi, le contrôle, la manière dont je l'ai vécu à chaque fois, c'est pas... Alors ça m'est arrivé une fois d'avoir loupé un rendez-vous et d'être convoqué de manière un peu menaçante, où il a fallu que je fournisse des preuves, des traces de lettres, de motifs, de CV, etc. Mais sinon, les 3/4 du temps, c'est un contrôle qui est déguisé en aide. C'est-à-dire que ce qui m'est arrivé plein de fois, c'est de me retrouver coincé dans un truc de 3 mois avec un rendez-vous par semaine pour m'aider à... Alors, une fois, c'est faire un bilan de compétences, une fois, c'est aider à l'élaboration d'un projet professionnel, une fois, c'est des trucs comme ça, mais sauf qu'en fait, c'est vraiment... C'est des trucs qui sont faits déjà par des sous-traitants les 3/4 du temps, et qui sont hyper formatés, qui correspondent jamais à ce dont on a besoin, et qui, en fait, effectivement, qu'on vit comme l'obligation de pointer une fois par semaine sur un truc, et qui n'ont jamais débouché... Enfin, je veux dire, qui ont débouché sur des projets encore moins réalisables que ceux que je suis capable de faire toute seule, quoi.
Donc voilà.
Je le vois juste comme une façon pour eux de se justifier en disant voilà, on aide les gens à retourner à l'emploi. Mais c'est pas du tout vrai. Pour faire ces boulots-là, j'ai pas besoin de savoir faire un CV. Apprendre à faire une lettre de motivation à quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, mais pourquoi faire ? Ça sert à filer du boulot qu'aux gens qui sont dans ces sous-traitants, ces trucs du Pôle emploi, ça justifie que leur taf à eux. Ça ramène personne au boulot, c'est sûr et certain. Enfin, pour moi. Là, je fais une formation d'agent de nettoyage et de propreté. C'est pour apprendre à être agent d'entretien. Donc, on m'explique à quoi ça sert un balai, à quoi ça sert une serpillière, à quoi ça sert.
Et comment tu t'es retrouvé dans cette formation ?
Bah, parce que je faisais ça avant comme boulot, mais. Et en fait, moi, je suis à la SS, donc j'ai 500 balles. Et puis, ma conseillère au Pôle emploi, qui est quand même pas si mal, mais il y en a. Elle m'a dit, mais je vous trouve une formation, vous serez payé 700 balles, donc ça fait 200 balles de plus, vous asseyez dans une classe, vous écoutez, vous dites oui, c'est bon.
Bah, sur la réforme du RSA, il y a... Bon, d'abord, moi, je vois vraiment deux choses. La première, c'est que ça officialise vraiment le fait que quand on est au RSA, il faut que ce soit parce qu'on n'a pas réussi à trouver de travail. Et ça ne peut pas être un choix de vie, ça peut pas être, il ne peut pas y avoir d'autre motivation que ça. Et puis la deuxième chose, c'est que ces 15 heures d'activité, ben voilà, ça touche. Du coup, moi, quand je parlais de problèmes de santé, quand même dans les gens qui sont au RSA, que ce soit pour les problèmes de santé ou que ce soit tout simplement parce que au bout d'un moment la précarité ça éloigne de ce monde-là et tous ces gens qui sont pas capables de fournir effectivement ces 15 heures, si vraiment c'est mis en place et que c'est vraiment contrôlé, mais ça veut dire quoi qu'on les met à la rue réellement. C'est-à-dire que là on bascule dans un truc où maintenant il n'y a plus un minimum de ressources inconditionnelles pour tout le monde en France, quoi.
Je me dis, ils font ça. Les arguments que j'entends, c'était juste qu'il y a 200 000 ou 300 000 boulots qui ne sont pas pourvus, un truc comme ça, alors qu'il y a 5 millions de chômeurs. Ça veut juste dire qu'ils vont trouver 200 000 pigeons, entre guillemets, et vont mettre 4 millions et demi de personnes dans la merde un peu plus. Ouais, c'est un durcissement, parce qu'ils veulent juste politiquement dire « Attention, on contrôle ces feignants de chômeurs », mais sauf qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, donc il se passera pas grand-chose.
Moi, ce que je sais, c'est que quand je bosse 35 heures, ça me pompe toute mon énergie vitale. Ça, des gamins, des courses, de la bouffe à faire, enfin, ça y est, c'est fini, ma vie, elle est morte. Et en fait, ça me fait assez vite déprimer. Et là, par exemple, ben, je suis au chômage entre mes activités militantes, mes temps de... Moi, je me suis mise à me passionner pour la Sciences Po. Je suis en train d'apprendre la langue des signes parce que j'ai une fille qui est sourde. Je me rends compte que là, maintenant, s'il fallait que je dégage 35 heures pour un travail, en fait, je ne les ai pas. Clairement, je ne les ai pas. Enfin, non seulement je ne les ai pas, mais c'est révoltant l'idée qu'il faudrait les avoir pour être dans la norme, quoi. Enfin, moi, le travail, ça me mange la vie. Vraiment.
Le chômage.
Employeur.
soleil, je suis dans la merde, on danse le boogie woogie. Je suis un employé, je suis dans la merde, on danse le boogie woogie. Je suis un employé, je suis dans la merde, on danse le boogie woogie. Je suis un employé, je suis dans la merde, on danse le boogie woogie. Je suis un employé, je suis dans la merde. Je suis un employé, je suis dans la merde, on danse le boogie woogie. Je suis un employé, je suis dans la merde, on danse le boogie woogie. Je suis un employé, je suis dans la merde.